Alexandre Dumas, 20 ans après. Chapitre 1. Le fantôme de Richelieu. Dans une des chambres du palais cardinal que nous connaissons déjà, près d'une table à coin de vermeil, chargée de papiers et de livres, un homme était assis, la tête appuyée dans ses deux mains. Derrière lui était une vaste cheminée, rouge de feu, et dont les tisons enflammés s'écroulaient sur de larges chenets dorés. La lueur de ce foyer éclairait par derrière le vêtement magnifique de ce rêveur que la lumière d'un candélabre chargé de bougies éclairait par devant. À voir cette simarre rouge et ses riches dentelles, à voir ce front pâle et courbé sous la méditation, à voir la solitude de ce cabinet, le silence des antichambres, le pas mesuré des gardes sur le palier, on n'eût pu croire que l'ombre du cardinal de Richelieu était encore dans sa chambre. Hélas, c'était bien en effet seulement l'ombre du grand homme. La France affaiblie, l'autorité du roi méconnue, les grands redevenus forts et turbulents, l'ennemi rentré en deçà des frontières, tout témoignait que Richelieu n'était plus là. Ce qui montrait encore mieux que tout cela que la simarre rouge n'était point celle du vieux cardinal, c'était cet isolement qui semblait, comme nous l'avons dit, plutôt celui d'un fantôme que celui d'un vivant. C'étaient ces corridors vides de courtisans, ces cours pleines de gardes, c'était le sentiment railleur qui montait de la rue et qui pénétrait à travers les vitres de cette chambre, ébranlé par le souffle de toute une ville liguée contre le ministre. C'était enfin des bruits lointains et sans cesse renouvelés, de coups de feu tirés heureusement sans but et sans résultat, mais seulement pour faire voir aux gardes, aux Suisses, aux mousquetaires et aux soldats qui environnaient le palais royal, car le palais cardinal lui-même avait changé de nom, que le peuple aussi avait des armes. Ce fantôme de Richelieu, c'était Mazarin. Or, Mazarin était seul et se sentait faible. Étrangers, murmurait-il, Italiens, voilà leur grand mot lâché. Avec ce mot, ils ont assassiné, pendu et dévoré Concini, et si je les laissais faire, ils m'assassineraient, me pendraient et me dévoreraient comme lui, bien que je ne leur ai jamais fait d'autre mal que de les pressurer un peu. Les niais, ils ne sentent donc pas que leur ennemi, ce n'est point cet Italien qui parle mal le français, mais bien plutôt ceux-là qui ont le talent de leur dire des belles paroles avec un si pur et si bon accent parisien. Oui, oui, continuait le ministre avec son sourire fin, qui cette fois semblait étrange sur ses lèvres pâles. Oui, vos rumeurs me le disent, le sort des favoris est précaire. Mais si vous savez cela, vous devez savoir aussi que je ne suis point un favori ordinaire, moi. Le comte d'Essex avait une bague splendide et enrichie de diamants que lui avait donnée sa royale maîtresse. Moi, je n'ai qu'un simple anneau avec un chiffre et une date. Mais cet anneau a été béni dans la chapelle du palais royal. Aussi, moi, ne me briseront-ils pas selon leurs vœux? Ils ne s'aperçoivent pas qu'avec leur éternel cri « À bas le Mazarin !» je leur fais crier tantôt « Vive Monsieur de Beaufort !» tantôt « Vive Monsieur le Prince !» tantôt « Vive le Parlement !» Eh bien, Monsieur de Beaufort est à Vincennes, Monsieur le Prince ira le rejoindre un jour ou l'autre, et le Parlement... Ici, le sourire du cardinal prit une expression de haine dont sa figure douce paraissait incapable. « Eh bien, le Parlement, nous verrons ce que nous en ferons du Parlement. Nous avons Orléans et Montargis. Oh, j'y mettrai le temps. Mais ceux qui ont commencé à crier « À bas le Mazarin !» finiront par crier « À bas tous ces gens-là, chacun à son tour. » Richelieu, qu'il haïssait quand il était vivant et dont il parle toujours depuis qu'il est mort, a été plus bas que moi. Car il a été chassé plusieurs fois, et plus souvent encore il a craint de l'être. La reine ne me chassera jamais, moi, et si je suis contraint de céder au peuple, elle cédera avec moi. Si je fuis, elle fuira. et nous verrons alors ce que feront les rebelles sans leur reine et sans leur roi. Oh, si seulement je n'étais pas étranger, si seulement j'étais français, si seulement j'étais gentilhomme. » Et il retomba dans sa rêverie. En effet, la position était difficile et la journée qui venait de s'écouler l'avait compliquée encore. Mazarin, toujours éperonné par sa sordide avarice, écrasait le peuple d'impôts, et ce peuple, à qui il ne restait que l'âme, comme le disait l'avocat général Talon, et encore parce qu'on ne pouvait vendre son âme à l'encan, le peuple, à qui on essayait de faire prendre patience avec le bruit des victoires qu'on remportait, et qui trouvait que les lauriers n'étaient pas viande dont il pût se nourrir, le peuple depuis longtemps avait commencé à murmurer. Mais ce n'était pas tout, car lorsqu'il n'y a que le peuple qui murmure, séparé qu'elle en est par la bourgeoisie et les gentilshommes, la cour ne l'entend pas. Mais Mazarin avait eu l'imprudence de s'attaquer au magistrat. Il avait vendu 12 brevets de maître des requêtes, et comme les officiers payaient leurs charges fort cher et que l'adjonction de ses 12 nouveaux confrères devait en faire baisser le prix, les anciens s'étaient réunis, avaient juré sur les évangiles de ne point souffrir cette augmentation et de résister à toutes les persécutions de la cour, se promettant les uns aux autres qu'au cas où l'un d'eux, par cette rébellion, perdrait sa charge, ils se cotiseraient pour lui en rembourser le prix. Or, voici ce qui était arrivé de ces deux côtés. Le 7 de janvier, 700 à 800 marchands de Paris s'étaient assemblés et mutinés à propos d'une nouvelle taxe qu'on voulait imposer aux propriétaires de maisons, et ils avaient député 10 d'entre eux pour parler au duc d'Orléans, qui, selon sa vieille habitude, faisait de la popularité. Le duc d'Orléans les avait reçus, et il lui avait déclaré qu'ils étaient décidés à ne point payer cette nouvelle taxe, dussent-ils se défendre à main armée contre les gens du roi qui viendraient pour la percevoir. Le duc d'Orléans les avait écoutés avec une grande complaisance, leur avait fait espérer quelque modération, leur avait promis d'en parler à la reine, et les avait congédiés avec le mot ordinaire des princes « On verra ». De leur côté, le 9, les maîtres des requêtes étaient venus trouver le cardinal, et l'un d'eux, qui portait la parole pour tous les autres, lui avait parlé avec tant de fermeté et de hardiesse que le cardinal en avait été tout étonné. Aussi les avait-il renvoyés en disant, comme le duc d'Orléans, que l'on verrait. Alors, pour voir, on avait assemblé le conseil et l'on avait envoyé chercher le surintendant des finances d'Emery. Ce Demery était fort détesté du peuple, d'abord parce qu'il était surintendant des finances et que tout surintendant des finances doit être détesté. Ensuite, il faut le dire, parce qu'il méritait quelque peu de l'être. C'était le fils d'un banquier de Lyon qui s'appelait Particelli et qui, ayant changé de nom à la suite de sa banqueroute, se faisait appeler Demery. Le cardinal de Richelieu, qui avait reconnu en lui un grand mérite financier, l'avait présenté au roi Louis XIII sous le nom de Monsieur Demery, et voulant le faire nommer intendant des finances, il lui en disait grand bien. « À merveille !» avait répondu le roi, « et je suis aise que vous me parliez de Monsieur Demery pour cette place qui veut un honnête homme. On m'avait dit que vous poussiez ce coquin de Particelli, et j'avais peur que vous me forçassiez à le prendre. « Sire, répondit le cardinal, que votre majesté se rassure, le Particelli dont elle parle a été pendu. »« Ah, tant mieux !» s'écria le roi. « Ce n'est donc pas pour rien que l'on m'a appelé Louis le Juste. » Et il signa la nomination de Monsieur Demery. C'était ce même Demery qui était devenu surintendant des finances. On l'avait envoyé chercher de la part du ministre, et il était accouru tout pâle et tout effaré, disant que son fils avait manqué d'être assassiné le jour même sur la place du palais. La foule l'avait rencontré et lui avait reproché le luxe de sa femme, qui avait un appartement tendu de velours rouge avec des crépines d'or. C'était la fille de Nicolas Le Camus, secrétaire en 1717, lequel était venu à Paris avec 20 livres et qui, tout en se réservant 40 000 livres de rente, venait de partager 9 millions entre ses enfants. Le fils d'Emery avait manqué d'être étouffé, un des émeutiers ayant proposé de le presser jusqu'à ce qu'il eût rendu l'or qu'il dévorait. Le conseil n'avait rien décidé ce jour-là, le surintendant étant trop occupé de cet événement pour avoir la tête bien libre. Le lendemain, le premier président, Mathieu Mollé, dont le courage dans toutes ses affaires, dit le cardinal de Retz, égala celui de M. le duc de Beaufort et celui de M. le prince de Condé, c'est-à-dire des deux hommes qui passaient pour les plus braves de France. Le lendemain, le premier président, disons-nous, avait été attaqué à son tour. Le peuple le menaçait de se prendre à lui des maux qu'on voulait lui faire. Mais le premier président avait répondu avec son calme habituel, sans s'émouvoir et sans s'étonner, que si les perturbateurs n'obéissaient pas aux volontés du roi, il allait faire dresser des potences dans les places pour faire pendre à l'instant même les plus mutins d'entre eux. Ce à quoi ceux-ci avaient répondu qu'ils ne demandaient pas mieux que de voir dresser des potences et qu'elles serviraient à pendre les mauvais juges qui achetaient la faveur de la cour au prix de la misère du peuple. Ce n'est pas tout. Le 11, la reine, allant à la messe à Notre-Dame, ce qu'elle faisait régulièrement tous les samedis, avait été suivie par plus de 200 femmes, criant et demandant justice. Elle n'avait, au reste, aucune intention mauvaise, voulant seulement se mettre à genoux devant elle pour tâcher d'émouvoir sa pitié. Mais les gardes les en empêchèrent, et la reine passa, hautaine et fière, sans écouter leurs clameurs. L'après-midi, il y avait eu conseil de nouveau. Et là, on avait décidé que l'on maintiendrait l'autorité du roi. En conséquence, le Parlement fut convoqué pour le lendemain 12. Ce jour, celui pendant la soirée duquel nous ouvrons cette nouvelle histoire, le roi, alors âgé de 10 ans, et qui venait d'avoir la petite vérole, avait, sous prétexte d'aller rendre grâce à Notre-Dame de son rétablissement, mis sur pied ses gardes, ses Suisses et ses mousquetaires, et les avait échelonnés autour du palais royal, sur les quais et sur le pont Neuf, et, après la messe entendue, il était passé au Parlement, où, sur un lit de justice improvisé, il avait non seulement maintenu ses édits passés, mais encore en avait rendu 5 ou 6 nouveaux, tous, dit le cardinal de Retz, plus ruineux les uns que les autres. Si bien que le premier président, qui, on a pu le voir, était les jours précédents pour la cour, s'était cependant élevé fort hardiment sur cette manière de mener le roi au palais pour surprendre et forcer la liberté des suffrages. Mais ceux qui, surtout, s'élevèrent fortement contre les nouveaux impôts, ce furent le président Blanc-Mesnil et le conseiller Broussel. Ces édits rendus, le roi rentra au palais royal. Une multitude de peuples était sur sa route. Mais comme on savait qu'il venait du Parlement, et qu'on ignorait s'il y avait été pour y rendre justice au peuple ou pour l'opprimer de nouveau, pas un seul cri de joie ne retentit sur son passage pour le féliciter de son retour à la santé. Tous les visages, au contraire, étaient mornes et inquiets. Quelques-uns même étaient menaçants. Malgré son retour, les troupes restèrent sur place. On avait craint qu'une émeute n'éclatât quand on connaîtrait le résultat de la séance du Parlement. Et, en effet, à peine le bruit se fut-il répandu dans les rues, qu'au lieu d'alléger les impôts, le roi les avait augmentés, que des groupes se formèrent et que de grandes clameurs retentirent, criant « À bas le Mazarin ! Vive Broussel ! Vive Blanc-Mesnil !» Car le peuple avait su que Broussel et Blanc-Mesnil avaient parlé en sa faveur, et quoique leur éloquence eût été perdue, il ne leur en savait pas moins bon gré. On avait voulu dissiper ces groupes, on avait voulu faire taire ces cris, et, comme cela arrive en pareil cas, les groupes s'étaient grossis et les cris avaient redoublé. L'ordre venait d'être donné aux gardes du roi et aux gardes suisses, non seulement de tenir ferme, mais encore de faire des patrouilles dans les rues Saint-Denis et Saint-Martin, où ces groupes surtout paraissaient plus nombreux et plus animés, lorsqu'on annonça au palais royal le prévôt des marchands. Il fut introduit aussitôt. Il venait dire que si l'on ne cessait pas à l'instant même ces démonstrations hostiles, dans 2 heures Paris tout entier serait sous les armes. On délibérait sur ce qu'on aurait à faire lorsque Comminges, lieutenant aux gardes, rentra ses habits tout déchirés et le visage sanglant. En le voyant paraître, la reine jeta un cri de surprise et lui demanda ce qu'il y avait. Il y avait qu'à la vue des gardes, comme l'avait prévu le prévôt des marchands, les esprits s'étaient exaspérés. On s'était emparé des cloches et l'on avait sonné le tocsin. Comminges avait tenu bon, avait arrêté un homme qui paraissait un des principaux agitateurs et, pour faire un exemple, avait ordonné qu'il fût pendu à la croix du Trahoir. En conséquence, les soldats l'avaient entraîné pour exécuter cet ordre. Mais, aux Halles, ceux-ci avaient été attaqués à coups de pierre et à coups de hallebarde. Le rebelle avait profité de ce moment pour s'échapper, avait gagné la rue des Lombards et s'était jeté dans une maison dont on avait aussitôt enfoncé les portes. Cette violence avait été inutile, on avait pu retrouver le coupable. Comminges avait laissé un poste dans la rue et, avec le reste de son détachement, était revenu au palais royal pour rendre compte à la reine de ce qui se passait. Tout le long de la route, il avait été poursuivi par des cris et par des menaces. Plusieurs de ses hommes avaient été blessés de coups de pique et de hallebarde, et lui-même avait été atteint d'une pierre qui lui fendait le sourcil. Le récit de Comminges corroborait l'avis du prévôt des marchands. On n'était pas en mesure de tenir tête à une révolte sérieuse. Le cardinal fit répandre dans le peuple que les troupes n'avaient été échelonnées sur les quais et le pont neuf qu'à propos de la cérémonie et qu'elles allaient se retirer. En effet, vers les 4 heures du soir, elles se concentrèrent toutes vers le palais royal. On plaça un poste à la barrière des sergents, un autre au 15-20, enfin un troisième à la butte Saint-Roch. On emplit les cours et les rez-de-chaussée de Suisses et de mousquetaires et l'on attendit. Voilà donc où en étaient les choses lorsque nous avons introduit nos lecteurs dans le cabinet du cardinal Mazarin qui avait été autrefois celui du cardinal de Richelieu. Nous avons vu dans quelle situation d'esprit il écoutait les murmures du peuple qui arrivaient jusqu'à lui et l'écho des coups de fusil qui retentissaient jusque dans sa chambre. Tout à coup, il releva la tête, le sourcil à demi froncé, comme un homme qui a pris son parti, fixa les yeux sur une énorme pendule qui allait sonner 10 heures, et, prenant un sifflet de vermeil placé sur la table, à la portée de sa main, il siffla 2 coups. Une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit sans bruit, et un homme vêtu de noir s'avança silencieusement et se tint debout derrière le fauteuil. « Bernouin !» dit le cardinal sans même se retourner, car, ayant sifflé 2 coups, il savait que ce devait être son valet de chambre. « Quels sont les mousquetaires de garde au palais ?»« Les mousquetaires noirs, monseigneur. »« Quelle compagnie ?»« Compagnie Tréville. » »« Y a-t-il quelque officier de cette compagnie dans l'antichambre ?»« Le lieutenant d'Artagnan. » »« Un bon, je crois. » »« Oui, monseigneur. » « Donnez-moi un habit de mousquetaire et aidez-moi à m'habiller. » Le valet de chambre sortit aussi silencieusement qu'il était entré et revint un instant après apportant le costume demandé. Le cardinal commença alors, silencieux et pensif, à se défaire du costume de cérémonie qu'il avait endossé pour assister à la séance du Parlement et à se revêtir de la casaque militaire qu'il portait avec une certaine aisance grâce à ses anciennes campagnes d'Italie. Puis, quand il fut complètement habillé, « Allez chercher M. d'Artagnan » dit-il. Et le valet de chambre sortit 7 fois par la porte du milieu, mais toujours aussi silencieux et aussi muet. On eût dit une ombre. Resté seul, le cardinal se regarda avec une certaine satisfaction dans une glace. Il était encore jeune, car il avait 46 ans à peine. Il était d'une taille élégante et un peu au-dessous de la moyenne. Il avait le teint vif et beau, le regard plein de feu, le nez grand, mais cependant assez bien proportionné, le front large et majestueux, les cheveux châtains un peu crépus, la barbe plus noire que les cheveux et toujours bien relevée avec le fer, ce qui lui donnait bonne grâce. Alors, il passa son baudrier, regarda avec complaisance ses mains, qu'il avait fort belles et desquelles il prenait le plus grand soin. Puis, rejetant les gros gants de daim qu'il avait déjà pris et qui étaient d'uniforme, il passa de simples gants de soie. En ce moment, la porte s'ouvrit. « Monsieur d'Artagnan !» dit le valet de chambre. Un officier entra. C'était un homme de 39 à 40 ans, de petite taille mais bien prise, maigre, l'œil vif et spirituel, la barbe noire et les cheveux grisonnants, comme il arrive toujours lorsqu'on a trouvé la vie trop bonne ou trop mauvaise, et surtout quand on est fort brun. D'Artagnan fit 4 pas dans le cabinet, qu'il reconnaissait pour y être venu une fois dans le temps du cardinal de Richelieu, et, voyant qu'il n'y avait personne dans ce cabinet qu'un mousquetaire de sa compagnie, il arrêta les yeux sur ce mousquetaire, sous les habits duquel, au premier coup d'œil, il reconnut le cardinal. Il demeura debout, dans une pose respectueuse mais digne, et, comme il convient à un homme de condition, qui a eu souvent dans sa vie occasion de se trouver avec des grands seigneurs. Le cardinal fixa sur lui son œil plus fin que profond, l'examina avec attention, puis après quelques secondes de silence. « C'est vous qui êtes monsieur d'Artagnan » dit-il. « Moi-même, monseigneur, » dit l'officier. Le cardinal regarda un moment encore cette tête si intelligente et ce visage dont l'excessive mobilité avait été enchaînée par les ans et l'expérience. Mais d'Artagnan soutint l'examen en homme qui avait été regardé autrefois par des yeux autrement perçants que ceux dont il soutenait à cette heure l'investigation. « Monsieur, dit le cardinal, vous allez venir avec moi, ou plutôt je vais aller avec vous. »« À vos ordres, monseigneur, répondit d'Artagnan. Je voudrais visiter moi-même les postes qui entourent le palais royal. Croyez-vous qu'il y ait quelque danger ?»« Du danger, monseigneur, demanda d'Artagnan d'un air étonné. Et lequel ? On dit le peuple tout à fait mutiné. L'uniforme des mousquetaires du roi est fort respecté, monseigneur. Et ne le fut-il pas ? Moi, quatrième, je me fais fort de mettre en fuite une 100aine de ces manants. Vous avez vu cependant ce qui est arrivé à Comminges. Monsieur de Comminges est aux gardes, et non pas aux mousquetaires, répondit d'Artagnan. Ce qui veut dire, reprit le cardinal en souriant, que les mousquetaires sont meilleurs soldats que les gardes. Chacun a l'amour-propre de son uniforme, monseigneur. Excepté-moi, monsieur, reprit Mazarin en souriant. « Puisque vous voyez que j'ai quitté le mien pour prendre le vôtre. »« Peste, monseigneur, dit d'Artagnan, c'est de la modestie. Quant à moi, je déclare que si j'avais eu celui de votre éminence, je m'en contenterais et m'engagerais au besoin à n'en porter jamais d'autre. »«
Oui, mais pour sortir ce soir, peut-être n'eût-il pas été très sûr. »« Bernouin, mon feutre !»
Le valet de chambre rentra, rapportant un chapeau d'uniforme à large bord. Le cardinal s'en coiffa d'une façon assez cavalière et, se retournant vers d'Artagnan, « Vous avez des chevaux tout scellés dans les écuries, n'est-ce pas ?»«
Oui, monseigneur. »«
Eh bien, partons.
Combien monseigneur veut-il d'hommes ?»«
Vous avez dit qu'avec 4 hommes, vous vous chargeriez de mettre en fuite 100 manants. Comme nous pourrions en rencontrer 200, prenez-en 8. »«
Quand monseigneur voudra ?»
« Je vous suis, ou plutôt, reprit le cardinal.
« Non, par ici. Éclairez-nous, Bernouin. »
Le valet prit une bougie, le cardinal prit une petite clé dorée sur son bureau, et, ayant ouvert la porte d'un escalier secret, il se trouva au bout d'un instant dans la cour du palais royal.